أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد. Donc on met la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu. Le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il dit aussi لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. C'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Donc les cinq prières, donc justement c'est dans ce mois-là de Rajab, lors du grand miracle de l'Isra et le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, que le prophète il a reçu l'obligation des cinq prières, qui c'était au début 50, après c'était allégé de 5 en 5 jusqu'à 5 avec la récompense de 50, par la cause de Sayyidina Moussa. Mais ça c'est une preuve que la personne musulmane peut être utile après sa mort. Le vertueux, le prophète peut être utile après sa mort. Ainsi, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a été utile à cette communauté après sa mort, parce que c'était lui qui était la cause pour demander au prophète de demander à Dieu l'allègement. Et bien sûr, les savants, ils ont expliqué que quand ils disaient Irja ila rabbika was'alhu at-takhfif, c'est-à-dire reviens à l'endroit où tu as reçu la révélation. Ils ont précisé, donc on en a parlé, que cela ne veut pas dire reviens à l'endroit où Dieu serait localisé, car attribuer cela à Dieu est de la mécréance, car Dieu existe, ne dépend pas de l'espace ni du temps, il existe avant l'espace et le temps. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Donc le grand miracle, c'était pour honorer le prophète alayhi salatu wassalam et lui montrer les choses étonnantes qui indiquent la parfaite puissance de Dieu. Et c'est là qu'il a reçu cette nuit-là à l'obligation des cinq prières. Avant cela, dans le hadith, justement, de l'Isra, il dit qu'il a prié avec ses compagnons la prière de nuit. Salat al-Atama. Donc, il y avait une seule prière avant. Donc, les cinq prières sont la meilleure œuvre après la foi. Après la foi en Allah et en son messager. Donc, le lendemain de cette nuit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu, au dhuhr est venu à lui, Jibril, quand le soleil a quitté le milieu du ciel. Il lui a montré, donc il l'a dirigé, il lui a montré le wudu, il l'a dirigé dans al-dhuhr. Donc il a commencé par al-dhuhr. Puis il est revenu quand l'ombre d'une chose est devenue aussi grande que la taille de la chose en plus de l'ombre du zénith, l'ombre minimale. Quand le soleil est au du ciel, il y a l'ombre la plus courte de la journée. Donc pour un objet bien droit, on regarde l'ombre. Donc dans les pays du Nord, comme la France, l'Afrique du Nord, le soleil passe par le sud. Donc quand il se lève à l'est, l'ombre elle est de l'autre côté, elle est grande à l'ouest. Et plus il se lève vers le ciel, dans le ciel, plus l'ombre rétrécit et tourne comme les aiguilles d'une montre. Elle va passer par le nord. Et quand le soleil est plein sud, il est entre l'est et l'ouest, l'ombre elle est plein nord. C'est l'ombre minimale de la journée. On regarde cette ombre-là. Dès que le soleil quitte le milieu du ciel vers l'ouest, L'ombre, elle va s'agrandir, s'allonger. Dhohr, il est rentré. Et puis, elle va s'agrandir de la taille de l'objet. Ce qui fait, en tout, elle aura une taille aussi égale à la taille réelle de l'objet. C'est-à-dire celle, la taille, en réalité, qui dépasse du sol. Parce qu'il est planté dans le sol, donc c'est la taille qui dépasse du sol. Plus l'ombre minimale. S'il y avait 30 cm pour un objet de 1 mètre, bah, l'ombre aura 1m30 m. C'est l'ombre, la taille de l'asr, l'ombre du asr. On additionne la taille réelle de l'objet plus l'ombre minimale de la journée. C'est là qu'il est venu faire l'imam Sayyidina Jibril avec le prophète pour la prière de l'asr. Puis, donc Dhuhr va durer jusqu'au asr et l'asr jusqu'au Maghrib. Il est venu au Maghrib quand, à la disparition complète du disque solaire. Donc, et quand le Maghrib, il est rentré, il y a la lueur rouge. Quand la lueur rouge disparaît, il est venu pour l'Isha. Donc, il y a l'avis de la majorité des écoles, ils disent la lueur rouge. Et les Hanafites disent c'est la lueur blanche, c'est plus tard en fait l'Aïcha. Parce qu'après le rouge, il reste une autre lueur. Donc quand disparaît le rouge, selon donc la majorité des écoles sunnites, c'est il est rentré l'Aïcha. L'Aïcha, il dure toute la nuit jusqu'à donc Al-Fajr. Il est venu au Fajr quand la lueur blanche est apparue, horizontale, qui commence fine et se propage. C'est la fin de la nuit, c'est le début de la journée, l'aube, et c'est à ce moment-là aussi, on s'abstient de manger pour le jeûne. Donc elle commence fine, ensuite s'élargit. Donc dans les pays plus au nord, elle vient plus tôt en fait, généralement, surtout en été, c'est très très tôt. Bon, des fois ça disparaît pas, certaines régions, donc on prend en compte la région la plus proche où ça disparaît, où le soleil disparaît pour les temps des prières. Comme dans les pays où il fait plusieurs jours, il fait jour. Donc on fait une estimation par rapport à la région normale la plus proche, c'est-à-dire vers le sud. Et le Fajr, bah, il faut le faire avant le lever du première partie du soleil qui apparaît, c'est le Shuruq. Là, le temps il est sorti. Si quelqu'un il dormait, bah, il a pas de péché, il rattrape. Mais s'il est éveillé, il le fait pas. Donc, et c'est un grand péché. Rater une seule prière, c'est un grand péché. Toute la matinée, c'est le temps de Abduha. Il n'y a pas de prière obligatoire jusqu'à ce que le soleil quitte le milieu du ciel. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ce qui signifie, accomplis la prière quand le soleil quitte le milieu du ciel. Donc ici, ça désigne Dhuhr puis Al-Asr. Donc, et les prières qui peuvent se rassembler pour le long voyage, pour la maladie insupportable. Et à la tombée de la nuit, c'est le Maghrib puis Aïcha. Et à l'aube. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Ici, ça veut dire il est bien de réciter longuement le Coran à l'aube, car les anges de la nuit témoignent de cette récitation et les anges de la journée, parce qu'ils s'échangent à l'aube. Donc descendent les anges de la journée et remontent les anges de la nuit. Donc l'arrestation, c'est-à-dire, c'est bien de réciter longuement pendant dans la prière. Dans la prière. Mais comme on sait, la seule sourate obligatoire, c'est la Fatiha. Et c'est la meilleure sourate. Donc, bien sûr, il faut savoir bien la réciter. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ce qui signifie, accomplis la prière, certes la prière préserve des actes répréhensibles et blâmables. Sourate Al-Ankabut. Donc ça préserve, donc ça veut dire, c'est important de persévérer dessus, même si quelqu'un à côté il fait des choses pas bien, comme le prophète on lui a dit, quelqu'un il prie et il vole. Il a dit, Satanha ou Salatu. Ça veut dire que sa prière va l'éloigner de cela, quand il persévère dessus. Et c'est vrai, si quelqu'un il l'accomplit correctement, avec la crainte, etc., ça va l'éloigner. Et avec les conditions, bien sûr, c'est pas juste de dire j'ai la bonne intention. On va être jugé sur l'intention et les actes. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man tawadda'a kama umir, wa salla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ce qui signifie celui qui accomplit l'ablution, le wudu comme il a été ordonné, et qui accomplit la prière comme il a été ordonné, ils lui seront pardonnés ses petits péchés antérieurs. Donc ça, c'est une cause pour se faire pardonner les petits péchés. Donc la prière allait mieux que le pèlerinage, alors que le pèlerinage, lui, c'est une cause pour se faire pardonner les petits et les grands péchés. Donc il a cette spécificité, mais il n'est pas mieux que les cinq prières. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné l'accomplissement de cinq prières, et il en a fait la meilleure des œuvres après la croyance en Allah et en son messager. Il a fait que pour chacune de ses obligations, il y ait un temps connu pour son commencement et sa fin. Donc un temps de début et un temps de fin. Il a rendu obligatoire sur nous de les accomplir dans leur temps. Ainsi, celui qui les accomplit parfaitement aura une grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promise. Mais si quelqu'un ne les accomplit pas, rater une seule prière, c'est un grand péché. Mais se moquer ou renier ou rabaisser les prières, ou dire même ce n'est pas grave de ne pas prier, là c'est de la mécréance qui annule l'islam. Mais le simple fait de ne pas les accomplir par paresse, c'est un grand péché. Et il faut bien sûr rattraper. C'est une obligation de rattraper tout ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il est pubère. Pour celui qui est d'origine musulmane. Mais le nouveau converti, il doit rattraper ce qu'il n'a pas fait depuis qu'il est converti. Donc l'origine de ces horaires est tirée, comme on l'a dit, du hadith de Jibril alayhi salam. Jibril était venu en effet au prophète au lendemain de la nuit de l'ascension. Il a commencé à accomplir la prière de Adh-Dhuhr. Il était arrivé auprès du messager de Allah lorsque le soleil avait décliné du milieu du ciel et avait dit ô messager de Allah, lève-toi et fais la prière de Adh-Dhuhr. Jibril le dirigea donc dans la prière et il accomplit avec lui Adh-Dhuhr. Ensuite, il était venu auprès de lui lorsque l'ombre d'un objet avait atteint la longueur de l'objet, en plus de l'ombre qu'il avait lorsque le soleil était au milieu du ciel, ce qu'on appelle l'ombre au point de culmination. Lorsque l'ombre d'un objet devient égale à la longueur de l'objet, en plus de son ombre au point de culmination, cela indique la fin du temps de Adh-Dhuhr et le début du temps de Al-Asr. C'est à ce moment que Jibril, au premier jour, est venu auprès de lui et a accompli en le dirigeant, c'est-à-dire en tant qu'imam, la prière de Al-Asr. Ensuite, il était venu auprès de lui lorsque le soleil s'était couché. Il lui avait dit, ô Muhammad, lève-toi et accomplis al-Maghrib. Il accomplit donc avec lui al-Maghrib en tant qu'imam lorsque le soleil s'était couché. Puis, il était venu auprès de lui lorsque la lueur rouge avait disparu. C'est le début du temps de al-Isha. Il lui avait dit, ô Muhammad, lève-toi et accomplis la prière de al-Isha. Il s'était levé et avait accompli la prière de l'Aïcha en suivant Djibril. Ensuite, il revient à lui lorsque l'aube se fut levée, à savoir cette lueur blanche horizontale à l'horizon. Cette blancheur qui apparaît transversalement à l'horizon est celle qui indique le début du temps de As-Subh. Elle indique également le début de l'abstention de nourriture ou de boisson pour celui qui fait le jeûne. Il s'est levé et Djibril le dirigea dans la prière. Donc celui qui n'a pas appris ces temps est désobéissant. Donc il faut les apprendre. Donc on va voir qu'il faut vérifier que le temps il est rentré. Donc les parents se chargent d'un péché s'ils n'ont pas enseigné à leurs enfants les temps des prières. Ou s'ils n'ont pas et sinon mandater personne qui puisse les leur enseigner. Ceci est la bonne éducation. Donc, les parents, ils doivent enseigner, donc commencer dès 7 ans lunaire, quand il a la distinction, il comprend la parole à qui on lui adresse, l'enfant ici, il sait y répondre. C'est un devoir, comme cela est cité dans le hadith, « Mouru awladakum bis salat wa hum abna'u saba » Ordonnez à vos enfants la prière, ils sont dès lors qu'ils ont l'âge de 7 ans. Donc les parents ou celui qui a la charge, donc les premiers tuteurs sont les parents. S'il n'y a pas les parents, c'est les grands-parents ou celui qui en charge, par exemple, de l'orphelin. Ou toute personne qui peut ordonner. Voilà, l'âge de discernement, c'est là que l'enfant est, la prière est valable de lui. Mais lui, ce n'est pas obligatoire sur lui tant qu'il n'est pas pubère, bien sûr. Le discernement a lieu où ils ont dit, il sait boire et manger, se nettoyer, nettoyage intime tout seul, ou il sait répondre des questions qui indiquent la réflexion. Ce n'est pas simplement comment tu t'appelles ou comment s'appelle ton père, mais des choses qui montrent qu'il réfléchit et comprend. Comme de dire, il y a combien de jours dans la semaine? Il y a combien de mois de Ramadan dans l'année? Elle indique également le début de l'abstention donc de nourriture, comme on a dit, de boisson et tout ce qui annule le jeûne à ce moment-là, à l'apparition de l'aube. Donc ça, on l'a dit. Les parents donc se chargent d'un péché s'ils n'ont pas enseigné à leurs enfants les temps des prières. Ils leur enseignent aussi sur l'islam, la croyance, bien sûr, en Dieu, en les prophètes, qu'il y a l'au-delà. Donc ça, c'est un devoir. Ou ils mandatent quelqu'un de confiance qui leur enseigne. Ceci est la bonne éducation. La bonne éducation ne consiste pas seulement de bercer les enfants dans le luxe, les nourrir, les vêtir ou ce qui est de cet ordre. Bien que c'est un devoir aussi de nourrir les enfants, la nourriture de base, les habiller, ce qui leur évite la nuisance. Donc ils doivent le préserver de ce qui lui nuit aussi. Dans cette vie, dans l'au-delà. Donc Allah Ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudaha an-nas wal hijara, qui signifie ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'homme et de pierre. Et il se préservait soi-même et sa famille, c'est en apprenant la loi de Dieu et en transmettant. C'est comme ça qu'on se préserve du feu de l'enfer. Apprendre et appliquer. Donc il est un devoir de vérifier le temps de prière, donc les temps des prières, par l'observation. Et il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul ou une simple application. Ainsi, le calendrier donne une idée pour savoir quand observer, pour s'assurer de l'entrée des temps des prières. Donc on observe une fois au début de la saison, une fois à sa fin, et on voit l'évolution du temps. Ou on demande à quelqu'un qui a observé. Les temps des prières, Allah Ta'ala dit « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » ce qui signifie « Certes, la prière était prescrite pour les croyants dans 100 ans. » Sourate An-Nisa, ayat 103. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillata li dhikrillah » ce qui signifie « Certes, les meilleurs adorateurs de Allah font partie des meilleurs adorateurs de Allah. Donc, certes, font partie des meilleurs adorateurs de Allah ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les ombres pour faire la prière. Vikrullah, ici, ça veut dire la prière, rapportée par Tirmidhi. La prière est la meilleure œuvre après la croyance en Allah et en son messager. Allah a rendu obligatoire 5 prières pendant le jour et la nuit pour tout musulman pubère et saint d'esprit ou kallaf. Il lui est donc obligatoire de les observer et d'apprendre comment commence le temps de chacune d'entre elles et comment il finit. Les 5 prières et leur temps sont Adh-Dhuhr, la prière de Adh-Dhuhr, la prière de la mi-journée de 4 rak'a, séquence rituelle de la prière. Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel vers le couchant et finit lorsque l'ombre d'une chose quelconque atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, plus la longueur de l'ombre qu'elle avait au moment du point de culmination. On entend par chose quelconque un bâton, par exemple, planté verticalement sur un sol plat. L'ombre ou point de culmination, c'est l'ombre de cette chose lorsque le soleil est au milieu du ciel. Si quelqu'un est debout dans un endroit ensoleillé et que le soleil au milieu du ciel, on observe qu'il a une ombre. Cette ombre est l'ombre du point de culmination. Lorsque le soleil dévie vers l'ouest, on observe que son ombre s'allonge et tourne vers le levant. C'est là le signe que le temps de Dhuhr a commencé. Dans certaines régions comme la Mecque et dans certains jours de l'année, l'ombre au point de culmination, elle y est pas, parce qu'elle est pile sous l'objet. On la voit pas. Donc ça, c'est des régions comme la Mecque et certains jours de l'année. L'ombre, c'est-à-dire le soleil, est pile au-dessus des objets dans le ciel, et donc l'ombre, on la voit pas. Donc l'ombre en été, c'est la plus courte. Et en hiver, c'est plus long, parce que le soleil s'éloigne plus. Donc la prière de l'Asr, la prière de la mi-après-midi, de 4 rak'a. Son temps commence à la fin du temps de Adh-Dhuhr et dure jusqu'au coucher du soleil. Donc lorsque la longueur de l'ombre d'une chose quelconque devient égale à la longueur de cette chose plus la longueur de son ombre au point de culmination, le temps de l'Asr commence et celui de Adh-Dhuhr finit. La prière de l'Maghrib, la prière du coucher du soleil de 3 rak'a, son temps commence après le coucher du soleil, c'est-à-dire après la disparition de la totalité du disque solaire, et il finit à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge est la rougeur apparaissant du côté du couchant après le coucher du soleil. La prière de Al-Isha, la prière de la nuit de 4 rak'a, son temps commence à la disparition de la lueur rouge et finit à l'apparition de l'aube. La prière de As-Subh, la prière de l'aube de 2 rak'a, Son temps commence à l'apparition de l'aube véritable, Al-Fajr al-Sadiq, qui est une lueur blanche transversale à l'horizon est. Il finit au lever du soleil, c'est-à-dire à l'apparition du premier rayon direct du soleil. Première partie du disque solaire. Il est un devoir d'accomplir ses obligations dans leur temps pour tout musulman, pubère, saint d'esprit. Il faut aussi que la femme soit pure des règles et des lochis. Donc il faut que la femme soit aussi pure du règle des lochis pour que ce soit valable. Il n'est donc pas permis de les anticiper ou de les reculer par rapport à leur temps sans excuse valable selon la loi de l'islam, comme la maladie grave et le voyage avec ses conditions. Donc là, dans ce cas-là, on peut rassembler Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Mais on ne peut pas faire Al-Asr et Al-Maghrib, Al-Fajr, et ça semble pareil. Donc les conditions de validité de la prière. Les conditions de validité, les choses qu'il est indispensable d'observer avant d'entamer la prière sont l'islam, donc la prière n'est pas valable de la part d'un non-croyant. Donc si quelqu'un quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne dit pas de faire la prière comme ils font certains, ou quelqu'un qui a insulté Dieu, on ne dit pas de faire de rak'a. Ça c'est de la mécréance. C'est comme lui dire reste mécréant, c'est valable de toi. Et on dit les savants, quelqu'un qui insulte Dieu ou qui fait la mécréance ou qui se dit non musulman, sa prière n'est pas valable. On peut pas lui donner même le tapis pour soi-disant prier. Si on sait qu'il a fait une chose qui annule l'islam. Pour revenir à l'islam, ou rentrer en islam, les savants, ils ont dit, il faut attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Insulter Dieu, les prophètes, les anges, attribuer à Dieu la forme, la quantité, la localisation, comme les sectes extrémistes, wahhabites, leur prière, leur jeûne, il n'est pas valable. Donc, ils ne délaissent pas la mauvaise croyance. Se dire non musulman, renier l'obligation de la prière, de l'interdiction de la consommation de l'alcool ou du porc, même en plaisantant. Donc la personne qui a commis la mécréance, on lui dit pas de faire la prière, on lui dit de revenir à l'islam par les deux attestations de foi. Donc on fait pas croire quelqu'un qui n'est pas musulman qui serait musulman, en lui disant de faire la prière ou le jeûne ou des choses, des obligations, mais il va rendre des comptes sur cela, sur la prière, le jeûne, parce qu'il devait se convertir, revenir à l'islam et accomplir les devoirs, éviter les interdits. Donc on va pas aider à la mécréance ni au péché, car aider à la mécréance c'est de la mécréance, tout comme approuver la mécréance c'est de la mécréance. Donc, et bien sûr, parmi les conditions de validité de la prière, la distinction. C'est lorsque l'enfant a atteint un âge auquel il comprend la question, il sait formuler la réponse, comme de lui demander combien il y a de jours dans la semaine ou de mois dans l'année. Ainsi, on ne dit pas à l'enfant qui n'a pas la distinction de faire la prière, mais on lui dit « regarde comment on fait la prière ». Il est également une condition d'être saint d'esprit et de ne pas être fou. La purification des deux hadath, c'est-à-dire avoir le wudu, ne pas avoir un petit ni un grand hadath, avoir la petite ablution et la grande ablution, ne pas avoir eu ce qui annule cela, la grande ou la petite ablution, pour la validité de la prière. Donc ce n'est pas valable de dire à l'enfant même de faire la prière sans wudu. Et aussi la pureté des vêtements, du corps, de l'emplacement de la prière et de ce que l'on porte sur soi. Ainsi si on a dans sa poche un morceau de tissu entaché de najasa, substance impure comme l'urine, et que l'on prie avec, la prière n'est pas valable. Donc on l'a dit, mais le sang de sa propre blessure est tolérable, et de même le sang d'autrui en petite quantité. Cinquième condition, couvrir sa zone de pudeur. Celle des hommes va du nombril au genou, tandis que les femmes doivent couvrir tout leur corps sauf leur visage et leurs mains, avec ce qui cache la couleur de la peau. Donc on l'a dit aussi, couvrir la zone de pudeur. La femme, tout le corps sauf le visage et les mains, donc à faire attention aussi que ça, quand elle se prosterne, que ça couvre, que c'est assez long, que ça, en fait, là, si c'est une jupe, qu'elles peuvent mettre une jupe qui traîne, de telle sorte que quand elle va se prosterner, ça va tomber sur la plante de ses pieds, donc qu'on voit pas. Sinon, elle fait rentrer le pantalon dans les chaussettes ou. Donc celui qui prie doit savoir que le temps de la prière a commencé. Donc il ne faut pas s'imaginer, il faut être sûr que le temps il est rentré. Ou il l'a vu, ou quelqu'un de confiance lui a dit le temps il est rentré. Ou il a une chose qui fait qu'il sait que le temps là il est rentré. Comme il s'est habitué à faire une chose entre le Maghrib et l'Isha, et après avoir fini cette habitude, c'est ce qu'on appelle wird, comme tel nombre d'évocations et de récitations, et que le temps, il voit qu'il est rentré, donc il peut se baser dessus aussi. Comme le coq expérimenté aussi, qu'il est expérimenté quand il écrit que quand le fajr il est rentré. Ne pas croire aussi qu'un de ces actes obligatoires de la prière est un acte recommandé. C'est une condition aussi, c'est ne pas croire qu'un des actes obligatoires de la prière est un acte recommandé. Comme les actes, donc on va voir les piliers de la prière, comme l'inclination, la prosternation, la récitation de la Fatiha, c'est obligatoire. Mais le premier tashahhud, après la deuxième raka, c'est recommandé. Ou de dire Subhan Rabbi al-Azim 3 fois, Subhan Rabbi al-A'la 3 fois, c'est recommandé. Donc pour que ce soit valable, il ne faut pas qu'il croie par exemple qu'un acte qui est obligatoire, il est simplement recommandé. Comme l'inclination, la prosternation. Croire de manière spécifique que cet acte-là qui est obligatoire, qui serait tout simplement recommandé, fait que la prière n'est pas valable. Donc ça c'est une condition. Et huitième aussi, faire face à la Qibla. Il s'agit de la Kaaba honorée à la Mecque. Donc il doit se diriger vers elle, donc par sa poitrine en fait, quand il est debout, la position assise, et par la majeure partie du corps, en étant incliné et prosterné. Donc c'est pas là où toujours se lève le soleil comme ça là, certains y pensent, parce que le soleil c'est tous les jours qu'il se lève dans un endroit, il se décale le soleil. Ça dépend là où il est, si il est à l'est de la Mecque, il se dirige vers le sens inverse, s'il est à l'ouest, il se dirige vers l'autre sens, s'il est au nord-ouest, il se dirige vers sud-est, comme par exemple en France, sud-est, au Maroc sud-est, plus vers l'est, bien sûr. Donc il fait l'effort de recherche, sauf s'il rentre dans un lieu, une ancienne mosquée des siècles, et que il y avait des c'est-à-dire que les savants n'ont pas renié la direction de cet endroit-là. Sinon, il fait l'effort de recherche, il cherche où c'est le sud, là il est où par rapport à la Kaaba, et il se dirige vers le sens inverse. C'est-à-dire il faut diriger vers la Kaaba ou le prolongement de son corps, vers le ciel ou en bas. Si prier par exemple sous-sol, où il priait dans un lieu élevé, il va se diriger vers le prolongement. Il va pas se pencher, mais vers le prolongement du corps de la Qibla, de la Kaaba. Donc c'est Shafi'i cherche toujours la Kaaba elle-même. Chez les Maliki, ils disent c'est plus facile. Si t'es devant, tu cherches la Qibla, t'es dans la mosquée Al-Haram, bah tu cherches avec tes yeux, tu diriges avec elle vers la Kaaba. Si t'es en dehors, tu diriges vers la mosquée qui est plus grande que la Kaaba. Ici, t'es en dehors de la Mecca, tu diriges vers la Mecca alors que c'est plus grand. Donc eux, ils ont moins d'exigences. Chacun il a ses preuves. Donc le corps même de la Kaaba, tu cherches, tu fais l'effort, hein. T'es pas une condition d'avoir un avion, un laser, un radar, un satellite, non. Il fait l'effort. Sud-est, par exemple en France, ou les pays qui sont au nord-ouest. Par exemple les États-Unis, c'est sud-est aussi. On cherche pas, en fait, soi-disant, on fait pas, c'est pas le chemin le plus court qui compte. C'est le chemin direct. C'est-à-dire qui mène directement vers la Qibla. C'est pas un détour, un virage, comme prétendent certains et mélangent les choses. Parce que la Kaaba, c'est au centre de la Terre. Oui, Dieu a fait que la Kaaba soit au centre, et c'est testé, même des Occidentaux, ils parlent de ça. Hein. Moi, j'ai écouté dans une télé européenne, ils disaient ça. Elle est entre le sud et l'est, et le nord, entre l'est et l'ouest, entre le nord et le sud. Donc, par conséquent, celui qui délaisse l'une de ces conditions, sa prière n'est pas valable. Donc, on rappelle que la bonne intention à elle seule ne suffit pas pour la validité des actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'intention à elle seule n'est pas suffisante. Il faut l'intention et les actes soient conformes à la religion. Donc, le hadith « Innama al-a'malu bin-niyyat », ça parle ici, les actes d'adoration, les actes de bien nécessitent une intention. Pour qu'il soit accepté, il faut l'intention par recherche de l'agrément de Dieu. C'est ça que ça veut dire le hadith. Ça ne veut pas dire fais n'importe quoi, tu dis j'ai la bonne intention. Ça parle des choses de bien. Tu as besoin de l'intention sincère par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir les récompenses. Ainsi, dans le hadith rapporté par Tirmidhi ainsi que d'autres, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée. Puis un homme est entré à effectuer la prière. Ensuite, cet homme est venu et a passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit « Irja fa salli fa innaka lam tu salli » ce qui signifie « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». Donc il n'a pas dit « C'est bon, t'as mis la bonne intention, c'est suffisant ». Parce que lui, il pensait faire le bien. Il pensait faire le bien tout seul ne suffit pas. L'homme est retourné et a prié de la même manière que la première fois, puis il est revenu et a de nouveau passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit « ce qui signifie retourne et prie, tu n'as pas prié. Ainsi l'homme est retourné prier. Cette scène s'est reproduite 3 fois. L'homme a alors dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas autre que cela. Apprends-moi. Le messager lui a alors appris comment prier. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rubba qa'im laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Rapporté par Ibn Hibban. Il signifie, il se peut que quelqu'un pense faire des prières surérogatoires de nuit, il ne gagne de cela que la veille. Il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne, il ne gagne de cela que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire que cette personne a fait des actes qui n'étaient pas valables du fait qu'il manque des conditions de validité, ou des piliers, ou elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensés. On apprend de ces hadiths qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, de vouloir faire le bien. Pour qu'un acte d'adoration soit valable, en effet, il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète. Il est donc primordial d'apprendre les lois de la religion par transmission orale auprès des gens ayant la connaissance et dignes de confiance. Donc il faut apprendre par chaîne de transmission auprès des gens de confiance qui ont une chaîne de transmission. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد